Quel bonheur de vous retrouver, ma chérie Tazolay. Bonjour.
Bonjour Didier.
Comment ça va? Très bien.
Ça ne peut qu'aller bien.
On essaye, en tout cas, par les temps qui courent, c'est pas toujours gagné, on va dire.
Non, mais on fait l'effort.
On va essayer d'être un petit peu joyeux aujourd'hui.
Justement, cette chanson va nous dire qu'il faut faire l'effort.
Bien. C'est gentil. Aujourd'hui, on va parler d'une chanson qui aurait été, vous allez me dire si c'est le cas ou non, spécialement écrite pour la fête de Pourim. Ça s'intitule oui. Shir Sameach, ce qui veut dire chanson joyeuse. Et pour l'avoir écoutée, on en écoutera un extrait dans un instant, mais pour l'avoir écoutée, c'est vrai qu'elle est bien entraînante, comme son titre l'indique d'ailleurs.
Mais oui, on a envie de se mettre en cercle et de danser la hora, n'est-ce pas, hein, Didier? Les auteurs...
Oui.
Ben oui, mais les auteurs ont clairement composé cette musique sur un rythme klezmer, qui s'appelle aussi Freilich, provenant du mot allemand Fröhlich, ce qui veut dire en yiddish...
Joyeux.
Ouais. Ceci dit, il s'agit d'une chanson joyeuse, mais qui est née dans des circonstances très tristes.
Alors, vous savez quoi? On va y revenir à cela. Mm-hmm. J'imagine, c'est un peu pour ça que vous êtes là aussi. Mm-hmm. C'est pour nous raconter l'histoire de cette chanson. Mais on va commencer par écouter un extrait. Et ensuite, bah, vous allez nous raconter comment une chanson joyeuse va naître d'un événement malheureux. Sympa. Avis Stereopharim, on écoutera bien sûr à la fin de cette chronique la version complète, bien évidemment. J'ai pas pu m'empêcher de repenser en fait les 50 ans de la sortie du film Rabbi Jacob.
Ah bah oui.
J'avais l'impression d'y être pour le coup.
Tout à fait, quand on parle de Freilich.
Alors expliquez-nous un petit peu comment cette chanson joyeuse est née de circonstances tristes. Quelles étaient-elles?
Elle est née clairement un jour. Elle a carrément une date de naissance. C'est pas une chanson. C'est une chanson qui est née en 2 heures, même pas. Elle est née la veille de Pourim, en fait, de l'année 1954. Mm-hmm. C'était le 18 mars, à l'époque.
C'est presque une date anniversaire, alors.
Eh oui. Et c'était, bien sûr, l'État d'Israël n'avait que 7 ans. C'était un petit gamin. Et ça se passe à Tel Aviv, au Milo Club. C'était le fief culturel du parti au pouvoir Mapai, à la tête duquel se trouvait...
Un certain David Ben-Gurion.
Eh ben oui.
Himself,
qui était le seul premier ministre de l'État d'Israël depuis 48. Et en 1954, il se retire pour des raisons personnelles et il cède la fonction de premier ministre à Moshe
Dayan.
Non,
Moshe
Charette.
Ah, Charette. Excusez-moi, mais il me manquait une roue.
Le deuxième premier ministre d'Israël, c'était Moshe Charette.
Non, mais j'étais un petit peu distrait par
oui,
les travaux.
Oui, par les bruits,
encore.
Là. C'est vrai, oui. Le foreuse.
Eh oui, que voulez-vous.
Et donc, Moshe Charette arrive au Milo Club le 18 mars 1954 pour fêter Pourim. Et il voit tous les visages. Le club était bondé et ils étaient tous avec des visages effondrés. Charette savait très bien pourquoi. En fait, ils venaient tous d'apprendre une très mauvaise nouvelle. Un autobus de Eged, revenant de Eilat vers Tel Aviv, avait été pris en embuscade par des terroristes à Maale Akrabim, qui se trouve juste au-dessus, au sud de Be'er Sheva. Dans le bus se trouvaient 14 passagers qui rentraient à Tel Aviv après avoir célébré le 5e anniversaire de la libération de la ville de Eilat. Ils ont tous été assassinés et lynchés. Une des femmes aurait même été violée. Cet acte barbare a plongé tout le pays dans un état de choc.
Déjà à l'époque.
Oui, ça n'arrête pas.
Ça nous rappelait les tristes événements récents.
Eh ben oui. Et à la vue de ces regards abattus, Moshe Charette se dit qu'il doit faire quelque chose. En tant que premier ministre d'Israël, c'est quand même son rôle de remonter le moral des troupes. D'autant plus que c'est la fête de Pourim, jour où nous sommes commandés d'être joyeux. Il cherche une idée, il balaye la salle du regard, et voilà que, dans la foule, il aperçoit Yaakov Orland et Mordechai Zeira, deux auteurs-compositeurs bien connus de l'époque. Le premier ministre attrape ces deux artistes par le bras, il les conduit vers la cuisine, il les fait asseoir, il sort de sa poche un stylo et un carnet de papier qu'il met sur la table. Il saisit une bouteille de cognac qu'il trouve sur l'étagère, il la dépose devant eux et il leur dit « Je veux que vous écriviez maintenant une chanson joyeuse. Après tout, on doit fêter Pourim !» Peu de temps après, les deux hommes sortent de la cuisine et dans leurs mains, des feuilles avec une chanson qui s'intitule, selon l'ordre du Premier ministre, « Chanson joyeuse, Shir Sameach ». Le duo créatif savait que Moshe Charette était lui-même musicien. Il lui tend alors la feuille avec la partition, lui demandant de chanter avec eux. « Tu voulais une chanson joyeuse ? Eh ben vas-y, chante-la » Et selon les sources bien informées, la toute première interprétation de cette chanson est sortie de la bouche du Premier ministre Moshe Charette en cette triste veille de Pourim 1954.
Il y a quelque chose qui me chipote un petit peu. Je ne comprends pas trop bien comment est-ce qu'on peut écrire une chanson joyeuse sous ordre, on va le dire comme ça, alors qu'en fait, on n'a pas du tout envie de rire à ce moment-là.
Ah ben voilà, joyeux. Ben voilà, ça nous arrive tout le temps, n'est-ce pas?
Mais c'est ça la différence entre... Il faut rester professionnel, c'est comme nous en radio, on diffuse des nouvelles anxiogènes, pour ne pas dire monstrueuses et extrêmement difficiles, et pourtant, il faut continuer de sourire, il faut continuer de donner le moral aux gens, alors qu'on n'a pas nécessairement... on n'est pas dans le mood, comme on dit.
Ben voilà, ils n'étaient pas du tout dans le mood, ils étaient complètement abattus, mais c'était Pourim, et le Premier ministre se dit, merde, c'est mon rôle de les... de remonter le moral, il faut faire quelque chose. Et voilà, il a eu cette idée-là en les voyant, et ça a marché. Ils ont écrit une chanson joyeuse. Et vous venez de toucher un point important, parce que Yaakov Orland et Mordechai Zeira, c'était sur ordre qu'ils ont composé cette chanson joyeuse. Et ils n'avaient pas du tout envie de faire la fête, ils étaient complètement démoralisés. Et ça semble surréaliste, mais c'est exactement là que se trouve la force du peuple juif. Si on se laissait abattre... Eh ben, notre peuple n'existerait déjà plus depuis longtemps, non? Figurez-vous, Didier, j'ai même trouvé sur Internet un atlas des peuples disparus. Ça existe.
Et ouais, bien sûr.
Cet atlas des peuples disparus fait le bilan d'une longue liste de peuples qui n'ont laissé que quelques maigres traces derrière eux. Et aussi, je rigole en voyant que de nos jours, il y a pas mal de psychothérapeutes qui organisent carrément des ateliers pour cultiver la joie.
Bah oui, bah c'est vrai qu'avec les époques qu'on vit, il vaut mieux, hein, parce que sinon, c'est pas spécialement ça qui jalonne notre vie en ce moment.
Exact, mais en attendant, ça fait rigoler de dire un atelier pour cultiver la joie, alors que les penseurs juifs ont compris depuis des siècles déjà que la joie était un élément majeur dans la survie de l'être humain. Déjà au XVIIe siècle, bien avant déjà, mais bon, moi je parle déjà du XVIIe parce que le Baal Shem Tov, inspiré de la Kabbalah, va fonder le mouvement chassidique en prônant la joie populaire. Et ça a pris un élan incroyable. Puis, il y a eu son arrière-petit-fils, le rabbin Nachman de Breslev, surnommé aussi Nachman de Oumoumoumoumouman, nananananana, Nachman, on les voit chanter, danser en Israël.
Oui, c'est vrai.
Et Nachman de Ouman, qui est en Ukraine en ce moment, imprégnait tous ses articles par le dicton « Mitzvah gdola lihiyot besimchat tamid ». Il y a plein de chansons « Mitzvah gdola lihiyot besimchat tamid ». C'est un grand commandement que d'être toujours joyeux. Et en résumé, prier ensemble, en communauté, dans la joie, chanter, danser, rigoler, s'amuser, les uns avec les autres. Ça, ce sont les clés de la philosophie juive.
Ben, je me souviens, quand j'étais au cours pour ma bar mitzvah, on va livrer des secrets d'alcool. Ben, si j'ai un bon souvenir, je me souviens qu'on nous disait, on me disait, durant la fête de Pourim, eh bien, tu es obligé d'être joyeux. Est-ce que c'est vraiment ça?
Obligé, oui, c'est un grand mot, obligé. On ne peut pas obliger quelqu'un d'être joyeux, mais en effet, on considère qu'on doit être joyeux à Pourim. Et à ce propos, Chazal, nos sages, disaient « Mishenichnas adar marbin besimcha ». Marbin, ça veut dire, ça vient du mot « harbe ». On va faire, on multiplie. Ce qui veut dire, lorsque le mois de Adar, c'est ce qui correspond à ce mois-ci, débarque, nous devons accroître notre joie.
Et cette année, on aura deux fois l'occasion
d'être
joyeux.
Il y a Adar Aleph et Adar Bet, exact. Mais ça signifie que nous devons déjà commencer à intensifier notre joie dès le premier jour du mois de Adar, qui correspond plus ou moins au mois de mars, de sorte à atteindre le climax le jour J de Pourim, qui tombe en plein milieu, le 14 du mois de Hadar, 14-15.
À la limite, vous n'avez pas encore répondu à ma question. Pourquoi on doit être joyeux à Pourim? C'est parce qu'on a été sauvé de l'extermination pour la énième fois ou c'est, on célèbre quoi en quelque sorte?
Eh ben oui, bien sûr, parce qu'on a été sauvé de l'extermination. Depuis la nuit des temps, à chaque génération, il y aura toujours une nation qui va tenter d'exterminer le peuple juif.
Mais j'espère que vous vous trompez quand même.
Ah ben malheureusement, c'est ce que l'histoire nous a montré jusqu'à présent. Mais bon, disons que c'est pas dans une chanson et l'histoire qu'on va débattre
non,
de ce thème.
Faux. C'est pas faux.
Mais on va revenir à Pourim. En deux mots, cette fête relate un événement historique qui s'est déroulé vers l'an 480 avant Jésus-Christ dans la ville de Suse, Shushan, la capitale du royaume de la Perse antique, c'est-à-dire l'Iran.
Ah bah oui.
Haman, le premier ministre du roi Assuérus, Achashverosh, manipule son roi afin qu'il ordonne l'extermination des Juifs dans tout le royaume perse. La reine Esther réussira à déjouer ce plan diabolique, grâce à son oncle Mordechai, de sorte que finalement le méchant Haman sera pendu pour trahison du roi et les Juifs seront sauvés.
Oui, mais enfin, en même temps, depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ que vous évoquiez, bien des malheurs sont arrivés au peuple juif et pourtant on persiste à fêter Pourim et à se forcer de se réjouir pendant tout le mois de Hadar, d'après ce que vous me dites.
Eh ben oui, parce que bon, si on réfléchit bien, en vérité, il n'existe pas de bonne solution au deuil et au chagrin. Après un grave désastre, la tristesse et la déprime semblent recouvrir toute bonne terre. Mais Shir Sameach nous rappelle que la joie est déjà en nous, comme d'ailleurs toutes les émotions. Il suffit de trouver un moyen de l'enflammer. Certes, ce n'est pas facile, mais nous devons le tenter, car nous avons le choix de le faire. Dieu nous a donné le libre arbitre lorsqu'il nous a dit « Ha'chaim ve'hamavet natati lefaneicha ha'bracha ve'haklala » c'est-à-dire « J'ai placé devant toi la vie et la mort, le bien et le mal ». Et puis, il ajoute une sorte de conseil. Il dit « Uvachar tabachayim » et tu choisiras la vie, afin que tu puisses vivre, toi et tes descendants. Ainsi, quand nous sommes abattus, nous avons le choix, mais c'est pas seulement que l'on a le choix, mais on a le devoir de décider de vivre, parce que le suicide est interdit dans le judaïsme. Et selon vous, Didier, qu'est-ce qui nous donnerait l'envie de vivre?
Pour ce qui me concerne, je dirais l'amour, le bonheur, voilà.
Mais bien sûr.
L'envie de découvrir les choses aussi.
Mais oui, mais comment aimer et être heureux si on est déprimé et malheureux, hein?
Alors. Ça, toute la question est là.
Voilà.
J'en parlais encore à mon psy il n'y a pas longtemps.
Eh ben, le judaïsme nous donne quand même un tout petit truc. Il nous dit, pour avoir l'envie de vivre, nous devons puiser au fond de nous cette étincelle de vie. Cette étincelle que Dieu a soufflée en Adam, à part le corps, l'étincelle de vie qui est notre source de joie. Nous devons alors attiser cette étincelle pour qu'elle devienne une grande flamme. Évidemment, c'est pas facile, mais voilà. Mais le jour de Pourim, bien sûr, pas tous les jours, hein, mais le jour de Pourim, pour ceux qui ont plus de mal à le faire, ils sont autorisés à boire du vin sans modération, jusqu'à l'ivresse. Jusqu'à ce qu'il ne puisse plus distinguer entre le maudit Haman et Mordechai, notre sauveur.
Ah bah dites-moi, j'aime de plus en plus cette fête de Pourim. On doit donc être joyeux tout le mois de Hadar, mais nous avons aussi un mois entier durant lequel nous devons restreindre notre joie.
Ah, vous faites référence au mois de Av, j'imagine.
Oui.
Pensons à Tisha B'Av.
Absolument.
Ben oui, au cours des siècles, différentes catastrophes se sont abattues sur le peuple juif durant le mois de Av, dont la destruction des deux temples de Jérusalem. Le mois de Av acquiert donc une atmosphère particulièrement sombre dans la tradition rabbinique, et les sages décrètent qu'il faut restreindre notre joie durant ce mois, genre faire profil bas, comme pour ne pas tirer le diable par la queue. Vers le 5e siècle, Rabbi Yehuda va dire « Vu qu'on doit réduire notre joie à l'arrivée du mois de Av, qui correspond plus ou moins fin juillet-août, ainsi on devrait l'augmenter à l'arrivée du mois de Hadar. » En d'autres mots, les rabbins disent qu'il y a un mois spécifique qui porterait malheur au peuple juif et un autre mois spécifique qui lui porterait bonheur, en quelque sorte. À quoi ça vous fait penser, Didier ?
Allez, au pif, l'astrologie.
Bravo, bien vu. Bah,
je sais lire en même temps. Hein.
Écoute, j'aimerais bien extrapoler le thème de l'astrologie dans le judaïsme, mais comme d'habitude, notre temps est compté. Et n'oublions pas qu'on est là pour parler de Shir Samer.
Absolument.
Mais en deux mots quand même, l'astrologie est connue et reconnue dans le judaïsme, mais les rabbins concluent que même si les astres ont une influence sur l'être humain, nous avons dans nos mains le libre arbitre et le pouvoir de renverser les situations prédestinées. Le mois de Hadar est celui des poissons, comme vous le savez, en mars, parce que c'est l'époque où les poissons se multiplient et abondent dans les lacs et les rivières. Mais le peuple d'Israël, lui, il est comparé aux poissons, d'une part, et la Torah, elle est comparée à l'eau.
D'accord.
Il y a toute une explication, pas le temps de rentrer là-dedans, mais en gros, ce qui signifie que ce peuple ne peut pas être détaché de la Torah, faute de quoi ce serait comme un poisson hors de l'eau.
D'accord, mais quel est le rapport avec l'histoire de Pourim, en fait ?
Ah,
parce qu'on parle, mais...
Oui, mais il y a un rapport, parce que après la destruction du premier temple de Jérusalem et l'exil de Babylone, le peuple juif finit par s'installer confortablement dans le royaume perse. Jusqu'à oublier, en fait, qu'il vient de Jérusalem à cause d'un temple qui a été détruit et qu'on l'a exilé de force. Et petit à petit, il se détache du judaïsme. Et c'est à cette époque que Mordechai demande à sa nièce de cacher son identité, c'est-à-dire se déguiser, d'où les déguisements à Pourim. Elle s'est déguisée en pure persane, goy, j'allais dire, non juive, pour épouser le roi. Et lorsque Haman convaincra le roi Achashverosh d'apposer son sceau sur le décret d'anéantissement du peuple juif, le roi ne savait pas que son épouse préférée appartenait à ce peuple. Il a dit « bon, d'accord ». Et puis la reine Esther va demander à tous les juifs du royaume de jeûner et prier avec elle pendant 3 jours avant de oser avouer au roi qu'elle est juive et de lui implorer l'annulation du décret. C'est ainsi que les juifs apprennent en fait qu'ils sont sur le point d'être massacrés. Du coup, ils jeûnent, ils prient et ils font ce que Esther leur demande et ils implorent le pardon de Dieu. En d'autres termes, ils font teshuvah. Il fallait que le peuple juif en fait se reconnecte avec son essence qui est la Torah, le judaïsme, Dieu, Hachem, afin de renverser son destin et d'être sauvé de l'extermination. Donc c'est possible.
C'est une belle conclusion finalement. Shir Samer, vous savez quoi, on va se l'écouter en entier et merci
Eric
pour tout cet éclairage. À très très vite, j'espère.
Ah ben oui, je
reviendrai. La prochaine fête après Pourim, c'est Pessah.
Mais maintenant, on va quand même fêter. Bonne fête à vous, Chag Sameach.
Merci
et
beaucoup.
Soyez joyeux.
Ah ben ça, ça ne devrait pas être un gros problème.
La 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 Hey, 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 delight, la la.